La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Luc Ferry, notre esprit libre du lundi, qui était déjà en train de développer des considérations politiques.
Et oui.
C'est le moment, Luc.
Oui.
On va parler de la Chine dans un instant,
oui.
Mais vous avez souhaité revenir sur un témoignage pour commencer, qui va vous permettre de parler politique. C'est celui d'une électrice du Rassemblement National, Colombe, interrogée par TF1 la semaine dernière. Elle a expliqué qu'elle était bénévole au Resto du Cœur et qu'elle votait Rassemblement National. On l'écoute, elle a ému jusqu'à la gauche.
Qu'est-ce qui me fait pleurer? Parce qu'on est arrivé dans un monde de fous et il faut absolument qu'on trouve des solutions. Parce que, regardez, moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire... Allez, suivez-moi et on va combattre. Ici, on a quand même un taux énorme du RN et on est tous en colère. On a tous du mal.
Une prise de parole, je le disais, qui a ému même à gauche, qui a bien sûr ravi le Rassemblement National et Marine Le Pen et qui a conduit cette personne à quitter les Restos du Cœur car le règlement des Restos précise qu'aucun bénévole des Restos du Cœur ne peut s'en prévaloir en prenant la parole médiatiquement et politiquement. Donc, Colombe a démissionné ou on l'a fait démissionner ou on l'a poussé vers la sortie. Ça se clarifiera dans les heures ou les jours qui viennent. Et cette femme vous a ému, Luc Ferry, et surtout, elle vous a donné à réfléchir.
Oui, parce qu'elle envoie un message à la gauche. La gauche a abandonné la question sociale pour la question sociétale. Voilà, et donc on parle de diversité, on parle d'écologie, on parle d'euthanasie, on parle d'avortement. Mais la gauche a oublié la question sociale, et la question sociale, elle est passée du côté du Rassemblement National. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé, c'est un journaliste qui rapportait ça. Il suivait Glucksmann pendant ses déplacements, et il y a un moment où Glucksmann est, je crois, plus ou moins agressé par des militants, je ne sais pas lesquels, mais il s'adresse à quelques militantes du Rassemblement National et il leur dit « Mais pourquoi vous votez Rassemblement National ?» Et il y a une dame qui lui répond « Parce que c'est le seul parti qui n'a pas honte de nous. » Et je trouve ça très intéressant parce qu'autrefois, c'était la gauche qui représentait ça, qui représentait le peuple. Enfin, elle représentait la question sociale et elle représentait le peuple. J'en parlais hier avec Dany et je lui demandais « Mais quel est le programme social de Glucksmann, par exemple, aujourd'hui ?» Ben, c'est un programme keynésien, c'est une aide, voilà, c'est l'État qui va dépenser de l'argent. Mais il n'y a aucune idée nouvelle. Voilà. Et c'est... Alors, je ne dis pas d'ailleurs que le programme social du Rassemblement National m'enchante, parce que la baisse de TVA sur la suppression de la TVA sur les produits de nécessité, je trouve que c'est une absurdité, parce que ça ne cible pas les pauvres, et en plus ça augmente la dette.
Mais Luc Ferry, je vous arrête,
voilà,
juste
mais
là.
C'est un message envoyé à la gauche, cette dame. C'est ça qui m'intéresse.
Je vous interromps 30 secondes. Qu'est-ce que ce serait,
je vous en prie.
Qu'est-ce que ce serait que trois propositions d'ordre social avancées par le candidat du Parti Socialiste, que ce soit aux européennes ou à la prochaine présidentielle?
Ah bah, moi, je ne suis pas au Parti Socialiste, donc je dirais que si j'avais, moi, en tout cas, à proposer quelque chose, que ce soit au Parti Socialiste ou ailleurs, c'est l'intéressement et la participation. Si vous voulez, je suis désolé, mais le salaire du patron de Stellantis, moi, ça m'en malade, j'y peux rien. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus dans le même bateau. Et on se moque du monde, pardon de le dire, parce que je sais très bien qu'il y a un argument qui consiste à dire « mais cet homme est formidable », ce qui est vrai, il a fait gagner beaucoup d'argent aux actionnaires, il a redressé la boîte, Stellantis, et c'est tout à fait exact. Mais néanmoins, ce n'est pas acceptable qu'il y ait un tel écart de revenus entre le patron d'une boîte et les salariés.
Donc, proposition sociale à participation, gauche, intéressement à participation, une proposition d'un gaulliste social, en
absolument,
fait.
Absolument, oui.
Il y a quelque chose comme
sûr.
Ça. Autre proposition.
Non, celle-là suffit. Parce que
celle-là
ça,
suffit.
Mais oui, parce que ça permet, si vous voulez, c'est l'idée qu'on est dans le même bateau quand on est salarié et quand on est patron de la boîte. Et c'est l'idée que si la boîte gagne de l'argent, le salarié en profite. Il gagne aussi de l'argent. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. Mais sans mettre plein les poches parce qu'on a été un patron formidable, non. Et je fais une très grande différence entre quelqu'un qui a créé son entreprise, et puis l'entreprise se développe, ce qui est le cas de Bernard Arnault ou de François Pinault, par exemple, et puis quelqu'un qui est simplement CEO, et qui, certes, est un CEO très talentueux, hein, je ne nie pas du tout, Carlos Tavares est quelqu'un d'extrêmement talentueux, et en effet, il a fait gagner beaucoup d'argent à sa boîte, il a redressé sa boîte, et bravo, félicitations. Mais ce n'est pas une raison pour s'en mettre plein les poches. Ou alors, s'il s'en met plein les poches, il faut que la petite qui est à l'entrée, qui est la petite hôtesse qui est à l'entrée ou qui répond au téléphone, elle gagne aussi de l'argent. Voilà. Et c'est ça la vraie solution. solution sociale parce que c'est une solution qui ne greffe pas l'économie, qui ne plombe pas l'économie.
Et vous avez commencé votre intervention, Luc Ferry, en expliquant que la gauche avait perdu de vue finalement le matérialisme,
oui.
Le pouvoir d'achat,
oui.
Et qu'elle s'était rendue sur des terrains sociétaux. Et
oui.
Notamment, c'est le cas de
oui.
la France insoumise et de tous ses satellites, évidemment,
oui.
avec la fameuse convergence des luttes.
Oui.
Hein, tous les damnés de la Terre se retrouvent à LFI. C'est le rêve de Jean-Luc Mélenchon. Sur l'initiative que pourrait prendre un parti socialiste ou un parti de gauche aujourd'hui, je suis en train de lire le bouquin de Jean-François Kahn qu'on va recevoir.
Oui, il est très bien d'ailleurs.
Sur la gauche qui
oui.
a perdu ses repères. Je voudrais qu'on creuse encore avec vous ce que pourrait être un parti qui reprenne le flambeau à gauche.
C'est un peu ce qu'incarnait Manuel Valls ou ce qu'incarne Carole Delga ou Cazeneuve. Ce sont ceux qui ont refusé le pacte avec le diable, si je puis dire. Je plaisante, évidemment. Mélenchon n'est pas le diable, mais enfin, il est quand même vraiment un grand nuisible à mes yeux. Et donc, ceux qui ont refusé le pacte, contrairement à Olivier Faure, le pacte avec LFI, je pense que ces gens-là incarnent l'idée qui est au fond celle de Victor Hugo. C'est un texte de Victor Hugo que j'ai cité très souvent dans mes livres, qui dit « Premier problème, produire la richesse. Deuxième problème, la répartir. » La phrase de Victor Hugo, c'est la phrase exacte. Et après, il ajoute « L'Angleterre résout bien le premier problème. Elle produit beaucoup de richesses, mais elle la répartit très mal. Et le communisme, c'est la logique du boucher qui tue ce qu'il veut partager. C'est-à-dire le communisme tue l'économie et donc n'a plus rien à partager, en quelque sorte. Bon. Et donc, c'est ça que devrait être la gauche social-démocrate aujourd'hui. Elle devrait être très libérale en économie. Elle devrait être gaulliste, si je puis dire. Mon vieil ami Jacques Julliard, il était gaulliste, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on s'entendait, même si on avait des désaccords, mais on s'entendait très bien parce qu'il comprenait parfaitement. Mais je dirais que Manuel Valls aussi. Bon, je pense que des gens comme Cazeneuve aussi comprennent ça. Il faut être libéral en économie pour pouvoir partager la richesse.
La gauche, la droite ou le centre, que pourrait-il aller piquer chez les Chinois dont le président nous rend visite aujourd'hui ? Il y a des idées à aller chercher en Chine ? Des idées de gauche ou de droite, d'ailleurs, mais des bonnes idées.
Alors, la Chine, bon, qui est un pays, moi, que je connais bien, j'y suis allé souvent, j'y ai des amis. C'est un pays qui est un pays communiste sur le plan politique, c'est-à-dire c'est une dictature, c'est un pays totalitaire sur le plan politique, mais c'est un pays néolibéral sur le plan économique. Alors, les deux se marient mal. Hein, si on écoute des grands libéraux français, ils diront, mais ça marche très mal. Mais en même temps, il y a zéro charge sociale sur les entreprises, donc c'est vraiment... C'est pour les chefs. Moi, j'avais rencontré une centaine de chefs d'entreprise à la demande du président du Conseil économique et social. À l'époque, ça s'appelait comme ça. J'avais rencontré une centaine de... Parce qu'il ne pouvait pas y aller, il m'avait demandé de le remplacer. Une centaine de chefs d'entreprise chinois et qui m'expliquaient, mais chez nous, c'est formidable parce qu'on n'a pas de charge sociale sur les entreprises, des salaires très bas. Et donc, on a un problème, évidemment, majeur, indépendamment de la guerre en Ukraine ou de la situation des Ouïghours, qui sont quand même deux sujets importants. C'est la question du protectionnisme. Simplement, le protectionnisme, c'est un boomerang. Voilà. Par ailleurs, ce qui est très intéressant en Chine, c'est, je dirais, la philosophie chinoise, qui est très puissante.
J'allais y venir, en fait.
Elle est très... Et en fait, quand vous parlez avec un Chinois, il vous dit, un Chinois cultivé ne vous dit jamais non. Même s'il est en grand désaccord avec vous. Parce qu'il y a deux grandes traditions philosophiques en Chine. Il y a celle de Confucius. Confucius est quelqu'un qui a vraiment existé. Il a été maître de justice, il a été ministre de la justice. Et c'est un homme, c'est un humaniste laïque, si on veut. C'est un homme des Lumières, avant la lettre. Enfin, on est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est un homme des Lumières, c'est quelqu'un qui refuse la métaphysique et qui est un passionné de livres et d'études et de hiérarchie sociale. Donc c'est une espèce d'humaniste cartésien, si vous voulez, avant la lettre. Et puis vous avez une autre tradition qui est celle du Tao Te Ching, donc le livre, le taoïsme, le livre de la voie et de la vertu, qu'on attribue à Lao Tzu, mais on sait aujourd'hui que Lao Tzu, c'est comme Homère. Lao Tzu n'a pas existé, c'est un groupe d'auteurs. Et vous avez une phrase qui dit tout, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a une phrase qui est fondamentale, moi je m'étais fait expliquer ça par un ami universitaire en Chine, en chinois c'est Nan De Rutu, et ça veut dire, écoutez bien, parce qu'on ne comprend pas, quand on est cartésien français, on ne comprend pas, être clairvoyant est chose très difficile. Parvenir à ne pas être clairvoyant est chose difficile. Parvenir à ne pas être clairvoyant est chose difficile. Le contraire absolu de Descartes.
Ça veut dire que c'est facile d'être clairvoyant.
Et c'est mauvais. C'est le contraire. C'est très mauvais d'être clairvoyant.
Ah d'accord.
Et comprenez pourquoi ?
Ah non.
Eh ben voilà. Parce que quand vous êtes clairvoyant, et donc constamment dans le Tao Te Ching, le sage était... c'est le contraire absolu de Confucius. Il ne faut jamais lire de livres, il ne faut jamais étudier. Le sage est un imbécile, le vrai sage est un imbécile, le vrai sage est un inculte. Et il est très difficile de parvenir à ne pas être clairvoyant. Le contraire des idées claires et distinctes de
Descartes. En clair, il ne faut pas étudier.
Il ne faut surtout pas étudier, il ne faut surtout pas avoir de livres. Pourquoi il dit ça ? Eh bien, l'idée qui est derrière, en fait, est une idée très profonde. C'est le pilier fondamental du taoïsme. C'est l'idée que si vous êtes clairvoyant, vous allez distinguer le vrai du faux, le beau du laid, le bien du mal. Et vous allez, par conséquent, entrer dans des polémiques. Vous allez être agressif avec les autres parce que vous êtes convaincu que vous avez raison. Vous détenez le vrai, le bien, le beau. Et donc, et vous avez tout un art chinois qui est magnifique, qui est un art de la brume, qui est un art taoïste en ce sens que tout est plus ou moins indistinct, flou, les limites ne sont pas visibles. Quand vous allez sur la Grande Muraille de Chine, vous voyez des paysages où tout est un peu brumeux, tout est flou, il n'y a pas de limite cartésienne, claire et distincte. Et donc c'est pour ça qu'un Chinois cultivé, et c'est très très profond dans la culture chinoise, il vous dit jamais non, même quand il est en désaccord complet avec vous. Et donc c'est très difficile pour les chefs d'entreprise français ou pour les politiques de comprendre ça. Quand ils négocient avec un Chinois, il faut comprendre qu'il y a toute une culture taoïste derrière qui incite au fond un Chinois cultivé à ne jamais être dans le tranché, dans le noir ou blanc, dans le bien ou mal, le vrai ou le faux. Non, c'est toujours plus fou, plus flou, plus compliqué, plus... Voilà, les limites ne sont pas fixées. Et ça, ces deux piliers, c'est le yin et le yang, si on veut, les deux piliers de la culture chinoise, c'est complètement opposé. Le confucianisme, c'est vraiment l'humanisme des lumières avant la lettre, c'est le cartésianisme avant la lettre, on cherche les idées claires et distinctes, on aime les livres, on aime la culture, et le taoïsme, c'est exactement l'inverse. Et je pense qu'un dirigeant chinois, il a tout ça dans la tête, parce que c'est très... Enfin, ces deux petits livres, vous lisez les entretiens de Confucius, c'est relativement facile à lire. Vous lisez le Tao Te Ching, c'est plus compliqué parce que le Tao Te Ching, mais c'est tout petit, parce que le Tao Te Ching, ce livre de la voie et de la vertu, c'est tellement le contraire du cartésianisme et des lumières que on a. Quand on lit, il est très difficile de parvenir à ne pas être clairvoyant. On se dit, bah attends, on s'est trompé, c'est pas ça que ça veut dire.
Luc, chez nous, nous avons la culture antique gréco-romaine, oui. Nous avons le judéo-christianisme, oui. Et l'existence du monothéisme et l'existence de Dieu est centrale en Europe, elle ne l'est pas en Chine.
Non. D'ailleurs, ce qui est très fascinant, il y a beaucoup d'écoles confucéennes en Chine, il y a beaucoup de temples. Ce qui est fascinant, c'est que Confucius refusait absolument de s'intéresser aux questions métaphysiques. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un humaniste des Lumières avant la lettre. Et ce qui est très intéressant, quand vous allez dans les temples en Chine, les temples de Confucius, Confucius est toujours représenté, enfin, c'est pas son nom chinois, c'est les jésuites qui lui ont donné un nom latin, mais peu importe. Il est toujours représenté avec des oreilles immenses. D'ailleurs, quand vous voyez les sages chinois, même le Bouddha, ils sont représenté avec des oreilles absolument immenses qui pendent comme ça, avec cette idée que le sage est celui qui écoute plus qu'il ne parle. Voilà, parce que le sage, c'est celui qui écoute les autres et qui en tire une réflexion, une sagesse. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui est très amusant en Chine, c'est cette opposition absolue entre le confucianisme qui invite à l'étude, à la lecture, qui adore les livres et qui adore la culture, et puis cette idée taoïste que le sage est un inculte complet, qu'il faut parvenir à être inculte pour être sage.
Emmanuel Macron a invité le président chinois à visiter le lieu de ses vacances chez sa grand-mère dans les Pyrénées, au Tourmalet. Il avait été préalablement, dans un passé assez récent, invité par Xi Jinping dans la ville de son grand-père. Est-ce que vous voyez là des symboles particuliers pour s'adapter justement à cette façon de penser, cette façon d'être des Chinois ? Et quand on dit des Chinois, on est forcé, malheureusement, nous autres occidentaux, à la généralité, parce que des Chinois, c'est une grande variété de régions et de
langage,
de particularismes locaux,
oui, enfin, de culture. Et puis vraiment, il y a des endroits incroyablement différents en Chine. Mais c'est vrai que, bon, peut-être mettre l'accent sur la famille est une bonne idée, mais les débats n'en resteront pas moins, malgré tout ce que je viens de vous dire sur le taoïsme, n'en restent pas moins très, très aigus, très tranchés, que ce soit sur l'Ukraine et les Ouïghours. Je pense que de toute façon, la France n'a en réalité absolument aucun impact. En revanche, sur la question commerciale, Il y a notamment un problème majeur, c'est cette obligation de voiture électrique à partir de 2035. La Chine subventionne à mort son industrie automobile, et en plus les coûts de production sont beaucoup plus faibles qu'en France, enfin qu'en Europe de l'Ouest, et par ailleurs ils sont très très en avance sur la voiture électrique. Donc pour nous ça va être une véritable lame de on va être submergé par les voitures chinoises. Voilà, donc il y a là, et si on fait du protectionnisme, les Chinois en feront aussi. Donc c'est un sujet majeur de discussion avec le président chinois aujourd'hui.
Je vous recommande le dessin de CAC dans l'opinion aujourd'hui. CAC qui met Xi Jinping et Emmanuel Macron face à face, et Emmanuel Macron dit Xi Jinping dit à Emmanuel Macron: mais pourquoi vous faites pas comme nous, du libéral, pourquoi vous faites du protectionnisme? En fait, c'est les économies inversées.
Eh oui, absolument.
Luc, tout à l'heure dans sa revue de presse, Marc Bourreau évoquait un taulard qui s'est découvert un goût et des capacités pour le chant lyrique tout à fait hors norme. Il s'appelle Naestro. On l'écoute.
Oh, dans le chien.